Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. Studio Tamani. Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry. Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est ce lundi qui s'achève à Kigali le 27e sommet de l'Union africaine qui réunit une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement autour d'une multitude de sujets. Parmi ces sujets, la lutte contre le terrorisme, le financement de l'Union africaine et des opérations de maintien de la paix, la crise de confiance entre l'Union africaine et la Cour pénale internationale et l'annonce d'un passeport africain. Donc, quelques exemplaires ont donc été remis à titre symbolique. Un passeport africain, est-ce réaliste dans l'immédiat et qu'est-ce que cela pourrait apporter comme changement dans les faits? Que peuvent faire et que doivent faire les Africains pour faire face au terrorisme? Les États membres de l'Union africaine doivent-ils quitter, se retirer donc de la Cour pénale internationale? Ces interrogations, nous allons les partager avec nos invités. Nos invités qui sont Fidel Diarra, qui est ambassadeur et professeur des relations internationales. Monsieur Diarra, bonsoir. Jomansi Bomoté est ici présent dans ce studio. Il est journaliste. Monsieur Bomoté, bonsoir.
Bonsoir.
Est attendu dans ce studio d'un moment à l'autre. Maître Abdramane Touré, il est avocat et analyste. À la présentation, Seydou Fomba.
Le grand dialogue.
Bienvenue à toutes et à tous. Ce soir donc s'achève le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali. Cette petite question avant donc d'entrer dans le vif du sujet, un sommet des chefs d'État et de gouvernement africains a-t-il forcément une incidence sur le sort du continent? Je pose la question à vous, Monsieur Diarra Fidel Diarra, ambassadeur et professeur de relations internationales.
Merci Monsieur Fomba. Je vais tout juste répondre à votre question de si un sommet des chefs d'État africains est attendu ou, disons, si on devrait tirer quelque chose. C'est un peu la substance de votre question. Eh bien, je répondrai oui. Une quarantaine de chefs d'État qui se retrouvent, qui se réunissent par ces temps où, quand même, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de questions, beaucoup, en tout cas, de situations à débattre. Et c'est sans doute, il s'en dégagera quelque chose. Vous avez déjà parlé, entre autres exemples, la question du passeport. Vous avez parlé un peu de, voilà, cette cour au tribunal pénal international. Voilà autant de questions que les dirigeants et les peuples africains attendent. Et ils attendent de leurs dirigeants, naturellement, qu'ils se prononcent là-dessus pour essayer peut-être d'inverser la situation ou l'idée qu'on se fait de l'Afrique qui, généralement, est divisée à l'image des 53, 54 États. Et donc, forcément, il devrait se dégager une position commune, ce qui est attendu.
Monsieur Jomansi Bomoté, je rappelle que vous êtes journaliste. Lorsqu'on évoque ces rencontres des chefs d'État, c'est vrai qu'on peut faire des remarques, noter des insuffisances, mais un sommet des chefs d'État, ce n'est quand même pas une formalité, une simple formalité.
Non, parce que le rêve de tous les Africains, c'est l'union, c'est l'unité africaine. Ça a été dit dès le début des années de l'indépendance. Ça a été considéré un peu comme une utopie. Il faudrait que les Africains se donne le moyen, donne à leurs rêves la chance d'exister. Donc, que les chefs d'État se rencontrent périodiquement pour passer en revue les grandes problématiques du développement en Afrique ne peut que contribuer à leur rapprochement. Et si on se fréquente, on se connaît mieux. Si on se fréquente, on peut échanger. Et en échangeant, on peut surmonter nos contradictions, nos difficultés. C'est une nécessité absolue. Ces sommets-là, c'est impératif. Moi, je trouve même que la fréquence, peut-être parce que le continent est très grand, mais on aurait dû, à mon avis, avoir une fréquence un peu plus rapprochée parce que les problèmes sont de telle nature qu'on ne peut pas trop perdre du temps. Il faut que régulièrement on se rencontre pour échanger, pour approfondir les différents points de vue.
Alors, Maître Abdraman Touré vient donc de nous rejoindre dans ce studio. Monsieur Touré, dites-nous l'importance de ce genre de rencontre pour le continent. Comment est-ce que vous l'appréciez, un sommet des chefs d'État?
Merci beaucoup, Monsieur Fomba, de m'associer à ce débat. Je remercie les auditeurs de Studio Tamani. Moi, je pense que cela a dû être dit par mes prédécesseurs. Un sommet de rencontre des chefs d'État d'un continent aussi mal en point que l'Afrique ne peut être qu'une bonne chose, dans la mesure où nous savons que les défis sont énormes, les enjeux également pas très souvent maîtrisés. Donc les grands axes quand même de ce 27e sommet prouvent à suffisance qu'il y a matière à réflexion et surtout matière sur laquelle il faudrait travailler dans le sens d'une plus grande communion et du renforcement de cette unité qui a été lancée depuis les premières heures de l'indépendance, mais qui a balbutié pendant longtemps. Mais je pense qu'au fil du temps, ils parviendront à trouver des voies et moyens pour concrétiser cet idéal.
Alors, nous l'avons signalé, il y avait beaucoup de questions, en tout cas plusieurs questions à l'ordre du jour de cette rencontre. Il y avait notamment l'élection du commissaire. Alors, l'élection du nouveau commissaire de l'Union africaine a été reportée à janvier 2016, ce qui n'est pas forcément surprenant. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'un des sujets qui ont dominé les travaux, c'est la lutte contre le terrorisme. Le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby, propose à ce sujet la création d'un fonds spécial. Alors, est-ce un préalable à la réussite du combat contre le terrorisme, le phénomène donc à l'échelle continentale? Je pose la question à vous, Fidel Lodjara.
Merci, M. Fomba. Alors, on va parler bien sûr de l'élection du nouveau président de la Commission de l'Union africaine, qui normalement devrait se faire sans problème, dans la mesure où on respecte généralement une rotation, une base régionale. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux dernières nouvelles? Je n'ai pas eu, en tout cas, la teneur de ce qui sont les déclarations, la résolution finale du sommet qui a dû déjà s'achever ce lundi. Mais alors, il y avait un certain nombre de candidats qui semblent n'avoir pas recueilli l'assentiment ou la caution d'une frange, d'une région non négligeable, et qui ont demandé tout simplement à leur barrer la route pour susciter d'autres candidatures qui pourraient alors provenir de régions autres que l'Afrique centrale ou australe. C'est normalement l'Afrique centrale ou bien de l'Est d'où devrait provenir le nouveau président de la Commission. Et des trois candidats qui n'ont pas été retenus, il y a lieu de voir, en tout cas, non seulement un problème déjà de ce qu'on pourrait appeler un « gentleman agreement hein, ». Il s'était entendu là-dessus, il y a changement, et on risque d'avoir d'un nouveau président qui ne serait pas, ou qui serait d'une région qui risquerait d'avoir le pas ou d'être en avance pour avoir un certain nombre de premiers.
Et cette proposition du président Idriss Déby relative donc à la création des fonds spéciaux,
voilà, c'est l'un des principaux acquis hein, que nous pouvons retenir en tout cas de ce sommet, dans la mesure où d'abord la lutte contre le terrorisme, il est convenu qu'elle ne pourra se mener qu'ensemble et pas seulement des pays d'une sous-région, sinon à l'échelle africaine, puisque le terrorisme, il frappe partout. Et maintenant, le fonds de financement, au-delà du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, dont ce fonds servirait justement à mettre en place des structures, une politique résolue. Mais il y a d'autres problèmes de financement. La même, disons, le fonctionnement même des institutions de l'Union africaine et d'autres fonds qui posent problème.
On en parlera justement au cours de ce débat.
Voilà,
nous avons. M. Bomoté, dites-nous à présent, cette proposition du président Déby, est-ce que réellement c'est un préalable à la réussite de la lutte contre le terrorisme en Afrique ou la création des fonds spéciaux?
M. Fomba, vous savez très bien que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est fondamental. On ne peut rien faire sans l'argent. Et donc, ça me paraît tellement évident que je suis un peu déçu que ce soit seulement maintenant que le problème se soit posé. Il faudrait que toute l'Afrique, que l'ensemble du continent, pas seulement au niveau des chefs de l'État, des chefs d'État, mais que les peuples soient impliqués, sensibilisés, informés et qu'ils prennent conscience que c'est le sort de chacun d'entre nous qui est en cause. L'horreur peut frapper n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Donc, s'organiser, s'armer, se donner les moyens pour faire face à ces dangers est un impératif catégorique qui s'adresse à l'ensemble des Africains. Donc, je pense que c'est une proposition qui est très pertinente. J'espère qu'elle ne sera pas lettre morte, comme beaucoup de propositions qui sont pertinentes faites dans le cadre de l'unité africaine de l'OUA avant, mais qui malheureusement se sont terminées en queue de poisson. J'espère que cette fois-ci, ils prendront conscience et que des actes suivront.
Maître Abdrahmane Touré.
Oui, enfin, moi je pense que quand on regarde la proposition de Idriss Déby, elle n'est que le prolongement de celle qui a été faite par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, qui a affirmé de manière assez claire qu'il faudrait que l'Afrique puisse parvenir à financer elle-même la plupart de ses programmes et aussi les opérations de maintien de paix. En disant qu'il faudrait qu'on fasse cela, moi je ne pense pas qu'on dise quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une révolution en soi. La proposition de Déby, elle est très bien, mais quand on l'observe très bien, on peut se dire simplement que ça relève un tout petit peu de l'incantation, voire même un vœu pieux. Parce que quand on a des propositions de ce genre, pour moi, à ce niveau, dans ce sommet-là, il fallait peut-être aller un peu plus au fond de la chose et amener peut-être une esquisse de proposition de mécanisme de financement. Et jusqu'à présent, on est au stade des déclarations de bonne intention, comme ça a très souvent été le cas. Et cette fois-ci, face à l'acuité de la crise que nous traversons sécuritaire sur le continent, on aurait dû peut-être mettre en place, avant de venir faire des propositions, des équipes capables de faire des propositions de mécanismes concrets, n'est-ce pas, de financement des opérations de maintien de paix. Et quand la ministre rwandaise des Affaires étrangères également, elle dit qu'il faut qu'on parvienne à financer la plupart de nos projets, sans pour autant citer lesquels, je pense qu'on n'est pas allé au fond des choses. Jusqu'à présent, on n'est pas dans les concrets, on est dans les préciences, les protocoles et les grandes affirmations. L'une des nos tares, c'est bien cela, et je pense qu'il est temps qu'on dépasse cette phase-là et qu'on vienne très souvent avec des mécanismes concrets. Moi, à ma connaissance, je n'ai pas eu écho vraiment de propositions ou de mécanismes, de scénarios ou d'alternatives par rapport aux propositions qui ont été faites.
Nous allons suivre à présent la réaction de Thomas Ibomote.
Oui, j'emboîte le pas. J'espère que les commentaires de Maître Touré sont tout à fait fondés. Hein. Je pense que aux préoccupations, c'est justifié. Bon, maintenant, pour être un peu plus réaliste, la proposition qui a été faite, c'est que tous les pays africains acceptent de céder 0,2% de leurs importations. Actuellement, le budget de fonctionnement de l'Union africaine est de l'ordre de 700 millions de dollars. Avec ces prélèvements de 0,2%, on va avoir un budget d'environ 1 milliard et quelques. Donc ça, c'est concret. Mais comme vous dites, vœux pieux, oui, déjà, les cotisations statutaires qui sont fixées
ne sont pas payées.
À 70% ne sont pas payées. Et nous sommes, il faut le dire, parce que notre public doit le savoir, nous sommes financés par les États-Unis, nous sommes financés par la France, nous sommes par l'Union européenne, par la Banque mondiale, par des bailleurs externes qui contribuent pour plus de trois quarts du budget.
Monsieur Bomoté, ces chiffres, nous aurons l'occasion de les évoquer. Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Le 27e sommet de l'Union africaine, c'est donc le thème du grand dialogue de ce lundi. Nous en parlons avec trois invités. Fidèle Diarra, qui est ambassadeur pour les relations internationales. Lumassi Bomboté, journaliste. Et Maître Abdelmane Touré, avocat analyste. Le terrorisme, c'est la question que nous évoquions tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle de terrorisme, il y a déjà eu Bamako, Ouagadougou, Abidjan. Il y a Al-Qaïda, il y a Boko Haram, qui même affaibli reste toujours très nuisible. Il y a les Shebab et l'État islamique. Alors, la menace terroriste reste quand même très forte sur le continent. En a-t-on réellement conscience au sommet, M. Diarra?
Oui, absolument. Il en a été question tout au long et même avant. Ça, les dirigeants africains en ont pleinement conscience. Autant qu'ils en ont conscience qu'il faut aller ensemble pour lutter contre ce fléau, pour l'endiguer totalement. Et je crois que cette proposition que M. Touré vient de rappeler, qu'elle a été suscitée, elle était pensée un peu en sourdine par bon nombre de dirigeants africains avant d'être portée par le président en exercice, sortant de l'Union africaine, qui est le président tchadien Idriss Déby. Mais sans doute qu'il faudra, et c'est la pleine conscience que les dirigeants ont, de tenir à bras le corps, de tirer ce problème du terrorisme par le corne, et surtout en lien avec les opérations de maintien de la paix. M. Touré en parlait tantôt. Il faudrait arriver à financer cette lutte entre les États africains, au sein des institutions sous-régionales et régionales africaines, et pouvoir ainsi se passer des conditions ou en tout cas de ces multiples résolutions qui nous viennent et qui ne servent pratiquement pas. Même si les mandats sont généralement clairs, il faut le rappeler, les chapitres 7 de l'ONU généralement a des résolutions qui sont claires et qui engagent en tout cas les opérations de maintien de la paix. Ce n'est pas le cas en Afrique, où vous avez des troupes qui viennent de certains pays n'étant pas bien outillées, pas aussi formées, même que les pays qui sont chargés de venir assister. Donc ça crée des problèmes. Et disposer donc de fonds pour, en tout cas, régler cette question dans le, au plan africain, ce ne serait que tout bénéfice.
Alors, M. Bomboté, dites-nous, à présent, a-t-on véritablement pris la mesure de la gravité de la menace terroriste en
Afrique? Oui, je pense que c'est une évidence. Tous les pays africains, je pourrais même dire tous les peuples africains, avec les exemples que vous avez cités, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et j'en passe, on a conscience de la gravité du danger. Je disais tantôt que l'horreur peut frapper à tout moment, n'importe où, n'importe qui, n'importe quand. Mais Maître Touré, Maître Diarra ont souligné la dimension financière de l'opération, c'est vrai, mais il y a d'autres aspects. Et un des aspects qui me paraît le plus important, c'est les renseignements. Je trouve que les Africains ne sont pas assez organisés. Nos services de renseignement se comporte souvent en amateur.
Ils collaborent peu ou alors?
Ils collaborent peu, il y a très peu d'échanges entre nos services. Et même à l'intérieur d'un pays, l'organisation des services de renseignement laisse à désirer. Souvent, on se préoccupe plus de la vie privée des individus que de problèmes majeurs qui concernent le fonctionnement de l'État. Donc, l'échange d'informations entre les pays, c'est quelque chose de très important. Il y a un aspect qui me paraît aussi essentiel. C'est l'argument souvent employé par les djihadistes pour commettre leur forfait, leur barbarie, c'est au nom de l'islam. C'est vrai que beaucoup de communautés islamiques ont protesté avec véhémence. Je n'ose pas douter de la sincérité de ces protestations, mais je crois qu'il est temps qu'il y ait une réflexion en profondeur au sein de la religion islamique, que vraiment les musulmans s'élèvent, qu'ils expliquent que leur dogme est totalement à l'antipode de la violence, n'est pas ne fait pas l'apologie de la violence. Il est absolument indispensable qu'il y ait une réflexion en profondeur des maîtres de la parole, j'allais dire, les grands penseurs de l'islam à travers le monde ne doivent plus se contenter de condamnations, mais doivent agir et poser des actes concrets pour que vraiment on éradique ça à la racine, l'origine de ces mal, parce qu'il y a une utilisation abusive par des charlatans de la religion islamique qui donne de l'islam une image qui est totalement à l'opposé de la réalité de ce qu'enseigne l'islam.
Maître Bernard Touré.
Oui, moi je pense, à la suite de ce que M. Bomboté vient de le dire, les réponses sont multiples, multiformes. Il y a des réponses financières, il y a des réponses d'ordre philosophique, il y a des réponses d'ordre religieux, il y a des réponses d'ordre politique et économique, parce qu'il y a cette dimension aussi qui intervient. Mais pour revenir à la question du financement, ça a été dit ici tout à l'heure, c'est bien beau de proposer un mécanisme de financement sur la base de cotisations de 0,2% sur les importations, mais avant cela, pourquoi ne pas faire l'état de lieu du non-paiement des différents états de leurs cotisations. D'abord, il y a un premier problème qui existe, on n'a pas trouvé de solution à cela, on fait une nouvelle proposition encore, qu'est-ce que nous montre en réalité qu'on parviendra à récolter ces sommes, même si les calculs in fine de 700 milliards de dollars peuvent être atteints de manière théorique, mais de manière concrète, demandons d'abord aux états de s'acquitter déjà des cotisations existantes.
C'était minimum.
Et exactement, là c'est une réunion de très haut niveau. Et ce n'est pas n'importe qui est là-bas, c'est les premiers responsables de chaque pays qui s'y trouvent. Donc la question également de la prise de conscience du terrorisme, c'est moins la prise de conscience que les mécanismes et le dispositif de pilotage de la lutte contre ce phénomène-là. Parce qu'à ce niveau, ça a été dit en partie, il a été très diplomate, M. Bomboté, nos services de renseignement et de sécurité sont tributaires de leur histoire. Quand on regarde les premières heures quand même de la création de ce service, très souvent, ils ont été utilisés pour la répression au service pratiquement des partis et des dirigeants qui étaient à l'époque qui s'en servait soit pour éliminer des opposants politiques, etc., soit des agresseurs, etc. Mais les choses ont évolué et les services n'ont pas suivi cette évolution, de sorte que même le personnel qui dirige ce genre de service est plus axé sur ce genre de questions plutôt que les nouvelles questions de stratégie, de sécurité, etc. Si vous regardez l'armée, par exemple, américaine ou les pays très bien organisés, vous allez vous rendre compte que l'armée, c'est le point de chute des meilleurs dans pratiquement tous les domaines. Les hôpitaux militaires en France ou aux États-Unis, c'est les meilleurs hôpitaux. Les ingénieurs, les meilleurs, c'est l'armée qui se les arrache. Voyez-vous, les sociologues, les politiciens, tout ça pour travailler en termes de prospective, en termes également de prévention. C'est ça aussi qui fait qu'ils parviennent à savoir des choses très souvent en avant parce qu'ils les ont étudiées, ils ont des spécialistes là-dessus. Et nous, on est dans l'aspect maniement purement des armes, dans l'aspect sécuritaire traditionnel. Donc on est largement dépassé et il faudrait qu'on crée ce dispositif de pilotage en commençant ne serait-ce que par le partage de renseignements de manière assez fiable et de manière assez ouverte.
Oui, je voudrais quand même ajouter à cela ce qu'il a dit, c'est très important. Le mot clé, il faut professionnaliser nos services de renseignement.
Exactement.
Il faut qu'ils deviennent de vrais professionnels, qu'on cesse d'être amateurs, qu'on cesse de bricoler. C'est la vie des citoyens qui se trouve en jeu. C'est très important. Donc, il faudrait non seulement à l'intérieur de chaque pays que les services de renseignement soient professionnalisés, mais en plus qu'on mette l'accent sur la coopération entre pays, qu'il y ait des échanges de services, qu'il y ait une intégration de services. Cela est très, très, très important parce que on assiste, c'est vrai, quelles que soient les précautions qu'on prend, on n'est jamais totalement à l'abri du danger. Mais il y a un minimum, je ne vais pas monopoliser la parole, je mets l'accent sur l'aspect professionnalisme de services de renseignement.
Fidel Diarra.
Oui, je suis tout à fait d'accord, je partage vos points de vue, vos idées. Mais seulement en matière de renseignement, hein, vous avez beaucoup parlé du renseignement, nous devrons tirer les leçons de notre histoire passée et récente. Vous avez fait allusion tantôt aux répressions, et ça c'est généralement l'appareil militaire, l'appareil militaro-sécuritaire. Or que la sécurité n'est pas que l'affaire des hommes en uniforme de l'armée et des forces de sécurité. Et malheureusement, c'est eux qui contrôlent nos services. Et ils n'arrivent pas à se départir justement de cette mentalité, en tout cas répressive, ou en tout cas de ces réflexes-là, qui ne les permettent pas de se développer ni de coopérer avec les civils, avec la population en général. Et voilà, vous aviez parlé aussi des différents extrémismes hein, religieux, il n'y a pas que religieux, mais ça c'est un exemple. Alors là, pour avoir un terrain, en tout cas pour avoir une solution, il faut que tout le monde s'implique. Et c'est vrai que c'est le rôle des États de pouvoir obtenir cette alliance, hein, n'est-ce pas ? Cette stratégie qui inclut toutes les composantes de la société et à une autre échelle, autant les États coopèrent entre eux, autant les populations frontalières devraient coopérer entre elles pour pouvoir justement avoir une clé des solutions. Ce n'est pas la solution parce que également nous devrons élargir cette coopération avec l'extérieur des pays beaucoup plus en avance. Ben, Dr Thuré en a parlé, hein, des États-Unis, de la France, qui quand même sont huilés, mais qui reviennent un peu en arrière pour élargir la base. Et ils sont présents chez nous également. Ils essaient de faire changer les mentalités pour que faire de la sécurité l'affaire de tout le monde. Et en lien aussi avec ces questions de sécurité, les questions économiques encore, ça revient. Maître Thuré aura l'occasion peut-être de le développer parce qu'il a eu à le souligner. Mais c'est que les questions économiques sont la base. Tant qu'on n'arrive pas à procurer un minimum hein, vital pour les populations, alors on aura toujours un terreau fertile pour les différentes manifestations terroristes extrémistes. Et donc c'est là aussi où l'économie joue.
Alors, on va quand même dire un mot de finances. Le budget 2016-2017 de l'Union africaine est estimé à 781 millions de dollars, hors opération maintien de la paix, soit 507 milliards 650 millions de francs CFA. Il faut quand même signaler que les États membres ne financent que 212 millions de dollars, soit 127 milliards 200 millions de francs CFA, contre 341 milliards 400 millions de francs CFA par les donateurs. C'est quand même anormal comme situation pour une organisation comme l'Union africaine, non, M. Bomoté ?
Ah non, c'est tout à fait anormal. Je me marie, je cherche à me marier et je continue à demander à mon père de me nourrir, de payer mon loyer. Non, c'est pas sérieux. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience encore plus accrue de la part de nos dirigeants, que l'esprit de sacrifice soit vraiment davantage développé. Tout à l'heure, on s'est interrogé sur le financement de la lutte contre le terrorisme. Mais pourquoi concrètement n'est pas décidé que chaque pays donne 1%, 2%, 3% de son budget militaire, de son budget de l'armée. Chaque pays. Chaque pays parce que l'argent... Bon, c'est vrai, je respecte les militaires, hein. Je ne vais pas me faire des ennemis, mais j'estime que le problème est d'une telle gravité aujourd'hui qu'il faut prendre le taureau par les cornes et qu'on accepte de sacrifier une partie de nos ressources, déjà peut-être maigres, mais une partie de nos ressources nationales dévolues à nos armées pour financer, j'allais dire, un corps d'armée d'intervention au niveau de l'Afrique. Il faut que nous trouvions l'argent. Parce que si nous continuons à tendre la main, nos problèmes ne seront jamais résolus. Donc, il faut être concret, il faut être pragmatique. Il faut qu'on aille chercher l'argent où ça se trouve et qu'on se donne les moyens de la politique. Sinon, le reste, c'est du bavardage.
Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant.
Réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Le 27e sommet de l'Union africaine à Kigali, c'est donc le sujet du jour. Nous évoquions tout à l'heure donc la question des finances. Alors, nous avons entendu M. Diomansi Bomboté. À présent, nous posons la question suivante à vous, Maître Abdelman Touré. Peut-on être financé par les donateurs et prétendre être indépendant?
C'est un paradoxe. C'est un paradoxe typiquement africain. Moi, je me dis simplement, honnêtement, ça c'est mon opinion, je pense que nos chefs d'État n'y croient pas. L'une des questions, si j'étais journaliste, que j'aurais posé aux chefs d'État africains, pourquoi vous n'êtes pas à jour dans vos cotisations? Oui. À partir de cette réponse, on pourrait maintenant essayer de savoir comment faire pour aller au-delà. 341 milliards de dollars contre 200 milliards sur le financement propre pour des États qui prétendent au panafricanisme, qui prétendent à l'émancipation. Je pense que Sékou Touré doit se retourner dans sa tombe. Je pense que fondamentalement, nous ne croyons pas en ces choses-là. C'est des sommets qu'on organise pour les préséances et les protocoles, une histoire de se retrouver. Mais en réalité, si on était conscient et qu'on avait vraiment envie de le faire, on aurait pu trouver les voies et moyens. Chacun de ces États est en capacité de payer ses cotisations. Moi, j'en suis convaincu. Si on fait une gestion rationnelle de nos budgets, les dépenses fictives que nous réalisons dans nos différents pays, les histoires de gaspillage dans chacun de nos pays, le train de vie de l'État, tout ça, c'est des facteurs qui bloquent l'avancement même de ce continent. Et les chefs d'État, chacun à son niveau, sait exactement que ce qui se passe dans son propre pays n'est pas à même d'assurer vraiment l'idéal qui est au bout de cela. Pour revenir un peu à la question du terrorisme, c'est vraiment pas la question. Je voulais ouvrir une petite fenêtre pour les hommes de médias. En ce qui concerne ce point-là, on n'en parle pas très souvent parce que les médias également constituent un relais très important dans la communication de ce genre de messages. Vous avez parlé des charlatans, de beaucoup de personnes qui racontent des inepties sur l'islam. Et je pense que très souvent, les médias, en tout cas les médias locaux, j'ai l'impression qu'il y en a qui prêtent le flanc à cela. Parce qu'il faudrait quand même parvenir à harmoniser ce qui doit être passé sur les médias, à mesurer l'impact de ce qui se passe. Très souvent, on voit des prêcheurs qui se convertissent très souvent en médecins, etc., etc. Et ça passe sur toutes les antennes des radios quand même locales. Je pense que les médias ont un rôle fondamental, doivent synthétiser ce qui se dit avant de divulguer ces choses enregistrées sur lesquelles d'ailleurs des personnes à viser aimeraient intervenir mais n'ont pas la possibilité. C'est des documents qui sont enregistrés et diffusés et on embarque les personnes soit sur le plan de la santé, soit sur le plan également de l'adhésion à telle ou telle obédience religieuse ou secte. Moi, je pense que les médias doivent se réveiller à un moment. Il y a eu quelques jours, on a eu des clashs entre différentes personnes sur les médias. Moi, je pense que c'est des événements également qu'il faudrait parvenir à stopper au même titre que les renseignements qu'on donne. La communication aussi a un impact très important.
Oui, mais je pense il a parfaitement raison de souligner le rôle majeur des médias. Et ce que je disais à propos des renseignements, je dirais la même chose à propos des médias. Il faut qu'on atteigne un certain niveau de professionnalisme, qu'on soit rigoureux dans le traitement de l'information. J'ai souvent l'habitude de taper sur les médias maliens, sur les limites de nos journaux, de nos médias. Mais je reconnais aussi que beaucoup font des efforts énormes. Et notamment, c'est un appel qu'il faut adresser à l'État. Il faudrait enfin que l'école de journalisme qui a été annoncée, Urbi et Orbi, depuis tellement longtemps, voit le jour enfin.
Elle sera réalisée très prochainement, on l'avait appris.
Je suis un des acteurs de sa mise en œuvre, mais je pense qu'en principe, on ne devait plus tarder et qu'à l'ouverture prochaine, la première génération devait sortir. Et il faut absolument que nous ayons des journalistes dignes de ces noms. Il y en a déjà, mais il faudrait tendre à plus de rigueur, à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Et Maître Touré, vous avez parfaitement raison, je suis d'accord avec vous, il faudra impliquer les journalistes, il faut qu'ils prennent conscience, il faut qu'on leur donne également les moyens de pouvoir assumer pleinement leurs fonctions dans la société et dans la lutte contre le terrorisme. Les journalistes ont leur place.
Nous allons nous intéresser à présent à la CPI et le trait de la CPI des pays membres de l'Union africaine. On en parle beaucoup, donc même au cours de ce sommet. Alors, ce retrait serait-il salutaire pour le continent à tous les égards, même après le cas Hussein Nabré qualifié de succès, Monsieur Diarra?
Merci. Bon, le problème de la CPI, bon, il s'est posé, je crois, depuis justement le procès, n'est-ce pas, contre Hussein Nabré. Mais il y a eu des précédents. Et au-delà de ces cas précis, l'Afrique, avec son système, avec sa cour, n'est-ce pas, de justice, qui aurait pu juger Hissène Habré, qui aurait pu juger d'autres personnes, et bien qui existe bien avant que la TPI ait été créée, ratifiée par nos États. Malheureusement, nos États l'ont ratifiée. Et maintenant que... Alors, parce que c'est pour quelles raisons on veut revenir en arrière. Moi, je crois que cela relève un peu de l'inconséquence également. Parce que si nous avions donné les moyens, ou si nous nous étions donné les moyens de faire, en tout cas, fonctionner, hein, n'est-ce pas, la Cour africaine de justice, on aurait pu se passer du tribunal pénal international, ou encore, je le répète, hein, une grande majorité des États africains qui l'ont signé et ratifié, pendant que d'autres en Europe, aux États-Unis notamment, ils l'ont signé, ils n'ont pas ratifié. Personne n'oblige à ratifier une décision, un traité international, alors, s'il ne fait pas votre affaire.
Alors, nous avons hâte quand même d'entendre sur cette question, maître de l'entourée.
Bon, je pense que cette histoire de retrait de la CPI venant de la part des chefs d'État, de certains chefs d'État, moi, ça ne m'étonne pas. Quand on regarde la CPI, le statut de Rome, l'adhésion, elle est volontaire. Elle s'est faite sur le plan individuel en ce qui concerne les États. Et pour sortir quand même de la CPI, il suffit juste simplement de faire une demande qu'on dépose au secrétariat général. Pendant l'année de la demande, on ne sort pas, mais l'année qui suit, on est carrément sorti. À partir du moment où l'adhésion est individuelle et qu'il y a des voies et moyens pour sortir, moi je me demande pourquoi on va demander une sortie collective. Que celui qui ne se sent pas en phase avec le statut de Rome fasse simplement la demande de retrait de son pays de la CPI. Ce qui est dérangeant dans cette histoire pour les chefs d'État, c'est simplement non seulement la lutte contre l'impunité qui est un des idéaux, qui est l'idéal fondateur même de la CPI, mais également le fait qu'on ne puisse pas mettre en avant les protections diplomatiques ou les fonctions officielles de présidence en cours. C'est là où ça dérange énormément la plupart de nos chefs d'État africains. Quand on voit des chefs d'État africains en fonction qui sont poursuivis par des juridictions, cela met mal à l'aise beaucoup d'autres chefs d'État. Et le relais quand même de la communication en ce qui concerne ce sujet, on fait croire aux peuples africains que c'est une cour qui a été mise en place contre les Africains. Mais quels Africains? La CPI ne cherche pas à poursuivre tous les Africains. Et la CPI n'intervient que sur demande des différents pays ou lorsque il y a des crimes d'une certaine dimension et que l'État n'a pas la volonté de poursuivre dans ce sens-là. Et nous savons que la plupart des crimes qui sont commis sur notre continent, c'est de la part des responsables qui ont en charge la protection de ces populations-là. Quand on prend la région des Grands Lacs, où les chefs d'État ont très souvent été appelés, vous allez vous rendre compte que les conflits post-électoraux, les guerres ethniques, sont très souvent à la base des génocides, de tueries, d'éliminations, de massacres, dans les marches, dans les protestations. Et tout cela intervient dans le cadre des régimes dirigés par des chefs d'État qui ont la mission principale de protéger leur population. Finalement, quand on intègre le fait qu'on doit sortir de la CPI, on se place de quel côté? Est-ce qu'on se place du côté des victimes massacrées par les puissants ou on se place du côté des puissants?
Alors, nous allons suivre donc la réaction de M. Bomoté.
Oui, l'argument juridique est à la limite d'une froideur cynique, et le besoin de justice, le fonctionnement, en fait, la paix dans un pays, la stabilité dans un pays repose principalement sur la justice. D'abord la justice intérieure. Je veux m'abriter derrière une citation de Pascal qui dit « Ne pouvant faire en sorte que la justice soit forte, on a fait de sorte que la force soit juste. » C'est à cela qu'on assiste souvent, l'incurie de notre justice, les malversations, les magouilles, les passe-droits, malheureusement, dans la plupart des pays africains, le contribuable n'a pas la justice qu'elle mérite.
Si je comprends bien, si ce retrait devenait réalité, ce n'est pas sans conséquence pour l'Africain.
Mais en même temps, il faut se méfier de nos émotions. La réalité, c'est quoi? C'est que depuis que la CPI existe, on a vu défiler devant ces fourches codines que des Africains. C'est cela qui met mal à l'aise. Je pense que demain, si on interpellait Bush pour les crimes commis en Irak, si on interpellait d'autres chefs d'État européens pour ce qui s'est passé en Libye, par exemple,
ou même asiatique aussi,
ou en Asie, en Colombie, dans beaucoup de pays, je pense que ceux qui, en Afrique, demandent à se retirer, réviseraient leur position. Mais malheureusement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, on a l'impression que cette cour a été créée uniquement pour faire rendre gorge aux Africains. Mais pour autant, je ne souhaiterais pas sa suppression. Parce que, je reviens encore au risque de me répéter, que nos peuples sont fragiles, ne sont pas toujours protégés, ne sont pas à l'abri des dictateurs. Donc il est bon que quelque part, il y ait une espèce d'épée de Damoclès qui rappelle à l'ordre. Bon, c'est très complexe. Et je dis, il faut se méfier de nos sentiments, de l'émotivité. Il faudra davantage réfléchir, mais tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Il faut faire preuve de beaucoup de lucidité avant de se prononcer sur la suppression de la CPI.
Ma présente question qui sied beaucoup à l'ambassadeur Fidel Diarra et professeur des relations extérieures. Un passeport africain pourrait-il, alors sans préalable, véritablement faciliter la libre circulation des personnes et des biens sur le continent, monsieur Diarra?
Le passeport africain, c'est peut-être l'une des résolutions, en tout cas l'une des décisions. On pourra toujours parler d'utopie, mais pour ce 27e sommet, il fallait en tout cas arriver à quelque chose. Et ce passeport qui est attendu par tout le monde, et au-delà du passeport, c'est plutôt la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur du continent africain d'abord. Alors si ça venait en tout cas à se matérialiser, à se concrétiser, je crois qu'on aurait eu la clé en tout cas du problème le plus brûlant, en tout cas que rencontrent les pays africains.
L'avis de Maître Touré.
Promouvoir la libre circulation des citoyens africains sur le continent, c'est très beau. Mais quand on regarde les chiffres, je me suis permis de regarder un tout petit peu, j'ai sorti quelques chiffres que je vais vous lire. On dit que 55% des pays africains exigent un visa pour les citoyens africains. 25% peuvent en demander à l'arrivée. Seuls 13 pays africains sont librement accessibles aux autres ressortissants du continent. Et parmi ces 13 pays, il y a le Mali, l'Ouganda, le Cap-Vert, le Togo, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Mozambique, le Rwanda, le Burundi, les Comores, Madagascar et la Somalie.
C'est anachronique, c'est pas normal.
13 pays simplement. C'est vous dire, lorsqu'on met en place un système de passeport panafricain, avec tout ce que cela charrie comme idéal, ça ne pourra que nous créer plus de problèmes qu'on ne le croit. Parce que dans le principe, qu'est-ce qui est dit? C'est un passeport qui est d'abord délivré et vous permet de rentrer dans n'importe quel pays africain pour une durée de 30 jours. Ça veut dire que les conditions d'entrée sont assouplies. Mais les conditions de séjour, on n'en parle pas. Vous savez que sur le continent africain, il y a beaucoup de mouvements. Un Camerounais qui veut aller au Gabon pour aller travailler, un Malien qui veut se rendre au Cameroun pour y aller, il a le passeport pour les 30 premiers jours. Après, il s'installe. Les 30 jours sont expirés, il bascule dans la clandestinité.
Alors, je vois que c'est tout un débat autour de ces passeports.
Exactement. Je voulais finir. Il va basculer dans la clandestinité et maintenant, n'étant pas en règle avec les conditions de séjour dans le pays, ça va donner lieu à des rafles, ça va donner lieu à des rapatriements. Donc, moi, je pense que ce passeport africain va servir d'abord à permettre aux Africains de se déplacer et ceux qui se déplacent vont tomber dans un autre problème et se retrouveront finalement dans un système de rapatriement dans des conditions
indignes. Mais c'est pour moi juste le mot de la fin.
Je suis impressionné par la qualité de vos réflexions, mais je suis au regret de vous dire qu'il n'y a absolument rien qui puisse justifier la non-circulation des Africains dans d'autres pays africains. quelles que soient les conséquences. Nous sommes africains, nous voulons faire l'Union africaine, nous voulons faire l'unité africaine. On doit donner, quels que soient les prix à payer, la possibilité, la liberté à chaque Africain d'aller où il veut sur le continent.
Alors nous aurons donc l'occasion de revenir sur cette question si importante. Alors le temps, voilà. C'est donc la fin de cette émission. Je rappelle que nos invités étaient Fidèle Diarra, ambassadeur pour les relations extérieures, les relations internationales. Youmassi Boumouté, qui est journaliste, et Maître Abdraman Touré, avocat, analyste. On se retrouve demain.
C'est un outil de fabrication de clandestins.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo Dmondi.
Chenne.